Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, paysanne créative. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène avec moi dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Alors ça fait depuis le 20 mai 2019 que j'ai pas enregistré de podcast. Donc comme vous pouvez vous en douter, il s'est passé beaucoup de choses, aussi bien à la ferme que dans ma vie personnelle. Alors je vais essayer de résumer ça assez vite. Donc on a eu un joli printemps et un été très chaud. Donc l'été, c'est un petit peu une période intense, tant au niveau que du maraîchage que des... pas vraiment des animaux, mais plutôt de tout ce qui est de préparer les réserves de fourrage et de céréales pour l'hiver. Donc si vous habitez en France et un peu en Europe, je crois que vous avez tous vu que l'été a été relativement chaud. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir arroser, donc évidemment dans les périodes de restriction de notre département, mais en tout cas sans limite d'eau. Donc on arrosait la nuit autant qu'on voulait. Donc ça a bien sauvé certaines récoltes. On connaît d'autres maraîchers qui travaillent sur des forages ou des retenues d'eau qui n'ont pas tenu en fait. Et donc eux, ça a été assez compliqué. Donc nous, on a raté certaines choses et puis on en a réussi d'autres. Donc au niveau du maraîchage, la période a été assez compliquée. C'est difficile de travailler par ces grosses chaleurs. Mais ça fait bizarre d'en parler aujourd'hui parce que ça fait des semaines qu'il pleut et beaucoup. Mais en tout cas, cet été a été très chaud. Au niveau des pommiers, notre verger a gelé pour la moitié au printemps. Avec la chaleur de l'été, les pommes, les fleurs qui n'ont pas gelé, ont fait des pommes qui n'ont pas vraiment grossi. Donc cette année, on a eu du jus de pomme, mais en très petite quantité, 10 fois moins qu'il y a 2 ans. Au niveau des animaux, ça s'est assez bien passé parce que j'ai des prés qui sont humides, qui sont dans des fonds de vallon, disons. Donc il est resté de l'herbe relativement tard. J'ai été obligée de les rentrer vraiment à la fin de l'été parce qu'il y avait vraiment plus d'herbe. Donc j'ai rentré les jeunes agneaux et donc j'ai entamé mes fourrages de foin et de paille. En parlant de foin, cette année a été épique pour les foins. Donc le premier jour des foins, c'était un dimanche matin, je me souviens, j'étais toute seule. Et on avait préparé le matériel, tout ça. Attelé la faucheuse, graissé, huilé, etc. Et je m'en vais gaiement faucher le premier champ qui était notre prairie semée. Donc une jolie prairie qui devait faire du joli foin qui est réservé pour la période d'agnelage qui arrive dans un mois et demi maintenant. Donc je démarre le tracteur, je m'en vais faucher, je fais quelques tours, je m'ajuste, je règle la faucheuse. Et ça fauchait pas très bien. Au bout de la faucheuse, en fait, on a une vieille faucheuse à assiette. Enfin, au bout de la faucheuse, l'herbe était pas bien coupée et ça avait tendance à bourrer, à rester dans la faucheuse. Normalement, l'herbe coupée se couche et, disons, éjectée un petit peu sur le côté. Donc je continue un peu mes tours, j'essaie de régler la hauteur, le piquage, tout ça. Et puis ça fait toujours la même chose. Et je me dis, zut... Vraiment, c'était une très belle prairie dense de l'herbe et on n'avait jamais eu ça, quoi. Je me dis, bon, c'est pour ça. Donc, je continue, j'accélère un petit peu plus pour faire tourner plus vite la faucheuse et tout. Et ça marche, mais je vois que c'est quand même pas trop ça. Je continue mes tours et à un moment où je ne fauchais pas, la faucheuse était levée pour faire une manœuvre, en fait. Je me suis retournée, on regarde régulièrement ce que fait l'outil derrière. Et là, Ça fumait. Donc, bah évidemment, j'ai arrêté la faucheuse tout de suite. J'ai attendu qu'elle arrête de tourner. J'ai éteint le tracteur. Je suis descendue voir. Et la dernière assiette était très 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 chaude. Et donc, j'avais cassé la faucheuse. Première fauche, premier champ. Donc voilà, les fois ont démarré comme ça. Donc heureusement, dans les moments comme ça, c'est un peu. Dans les moments un peu de galère, ça crée des liens parce que j'ai appelé des voisins qui ont gentiment fauché tous mes champs que je devais faire de la saison. Des éleveurs de moutons comme moi, très très gentils, pas très loin. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça a été pas trop mal. On a eu des petits soucis avec la presse à balles rondes. Mais ça s'est quand même bien passé. Bon, j'ai rappelé mes voisins pour qu'ils me dépannent plusieurs fois. Et voilà. Et on a quand même réussi à rentrer du beau foin. On a fait 100 de bottes, ce qui nous suffit pour le nombre d'animaux qu'on a, temps normal. On verra cette année parce que là j'ai dû rentrer des bêtes, notamment les jeunes agneaux qui avaient souffert de parasitisme parce que je les avais fait pâturer dans des zones humides. Donc là je les ai traités et je les ai rentrés au foin et au grain. Sinon les brebis vont bien. J'ai fait ma sélection des agnelles de renouvellement. Il y a 2 mois. Donc il y a des limousines, il y a des hampshires qui restent évidemment. Et elles sont très jolies. Il y en a pas mal de blanches quand même. Et il y en a 3 pures noires. Et après des tachetées. Voilà pour la saison estivale. Au niveau de l'automne, eh ben, c'est humide. Je suis pas trop à me plaindre du temps, j'avoue que ça joue un petit peu quand même sur mon humeur s'il n'y a pas de soleil pendant longtemps, mais ça me dérange pas trop de sortir sous la pluie, de travailler quand il fait un peu chaud. Voilà, je me dis cette saison et tout. Eh ben là, c'est vrai que je crois que j'en ai un peu marre de la pluie. Tous les jours, pourtant je pense qu'il faudrait que je me rachète un manteau un peu plus imperméable, mais tous les jours il y a 2 manteaux trempés, les pantalons, enfin. Donc on est dans la période un peu pluvieuse. On a commencé un petit peu à faire des clôtures et notamment une clôture végétalisée. Alors ça c'était un projet qu'on avait depuis quelques années, mais on s'y était jamais attelé. Et depuis septembre, on a un salarié à mi-temps, donc ça nous aide beaucoup. Et on a pu faire cette clôture. Donc on a un grand champ qu'on appelle la zone humide parce qu'il y a 2 ruisseaux qui passent. Et c'est vrai que c'est un peu une zone humide. Il y a beaucoup de joncs, de carex et de choses comme ça qui sont bien valorisés par les limousines. Je ne sais pas si c'est les meilleurs prix pour les hampshires. On voulait rediviser ce champ qui est très grand, donc qui n'est pas bien pâturé. Et pour ça, on a décidé de faire une clôture donc végétalisée en branches d'arbres, arbres coupés, le long d'un des ruisseaux qui passe. Donc on a mis, je dirais, à peine 2 semaines pour faire ça. Il y avait une bonne longueur quand même. Et c'est très très chouette. Déjà, c'est un travail très agréable, beaucoup plus que de planter des piquets avec le tracteur et l'enfonce-pieux, de dérouler des rouleaux de Ursus, le grillage à moutons très lourd et de crampillonner. Là, on a donc tronçonné principalement des saules et des aulnes. Donc ceux qui étaient vraiment près du ruisseau, on les a laissés, bien sûr. On en a coupé et plié certains pour faire disons, des bases pour la clôture. Et puis tout ce qui était un petit peu buissonnant, les cépés de saules et d'aulnes, on a coupé les petites branches. C'est vraiment des jeunes arbres, quoi. C'est vraiment des petites branches, c'est pas des énormes troncs, qu'on a un petit peu entassés et tressés le long de ce ruisseau. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et on a laissé certains saules qui étaient gros, donc âgés, assez beaux, et on va les conduire en saules têtards. Donc en fait, on coupe toutes les branches et tous les ans ça repousse. Les saules, c'est très 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 vivace. Ça fait des repousses sur une souche qui est sur un tronc qui est tombé. Les repousses grandissent. Enfin, c'est très 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 vivace. Et donc, on a décidé de faire quelques saules têtards parce qu'on trouve ça joli. C'est aussi intéressant pour la faune. Et puis, ça fait aussi du. Pendant les périodes de sécheresse, pardon, on peut donc tailler les branches et ça donne à manger aux animaux. Donc, voilà un des projets qu'on a réussi à faire cet automne. Et c'était assez agréable de travailler comme ça dehors et de faire une clôture végétalisée. Au niveau des autres projets, j'ai reçu le matériel pour aménager mon tunnel, à savoir les cornadis pour les moutons. Donc les cornadis, c'est une installation en fait où les animaux passent leur tête pour manger le foin ou le grain et être coincés en fait en tirant une barre. Ils sont coués, disons, pris entre deux barres et ils peuvent plus sortir la tête. Donc ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est un très très bon outil pour équilibrer la ration et donner à chaque bête le meilleur. Parce que souvent dans les râteliers à foin, donc vous mettez une botte de foin entière et les animaux mangent tout autour. Mais il y a, je sais pas, autour d'une botte de foin, je pense qu'il y a 15 brebis max qui peuvent manger. Donc la hiérarchie du troupeau fait que les plus fortes mangent le meilleur et après les plus faibles mangent le reste. Donc pour donner sa chance à tout le monde et que tout le monde ait sa ration et le meilleur de la ration, je fais un petit peu comme dans le système laitier, c'est-à-dire je laisse les brebis, je donne le grain en fait, et puis je laisse les brebis coincées, je distribue le foin, et il y a un temps où elles mangent coincées au cornadis. Comme ça, tout le monde mange sa part et il n'y a pas de compétition. Donc ça, on a reçu le matériel, il n'est pas encore installé, ça va être un gros gros boulot, je pense, de janvier. Et j'ai hâte parce que c'est vraiment depuis le début quand on est installé, ça j'en ai envie quoi. Et là, ça se précise. Au niveau du verger, donc on est en train de replanter des arbres et on va changer un petit peu des variétés et on va mettre des arbres un peu plus haut. Là, actuellement, on a un verger dit de basse tige. Et en fait, c'est un verger qui demande beaucoup d'entretien au niveau de l'herbe. Les arbres sont vite concurrencés par l'herbe parce que ce sont des porte-greffes faibles. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout tenu sur le. Donc bien sûr, on est en bio, donc on n'utilise aucun produit de désherbage. On fait à la débroussailleuse et au girobroyeur. Et c'est vrai qu'on s'y tient pas du tout. Donc l'idée serait de faire pâturer les moutons en dessous. Mais le verger tel qu'il est actuellement ne permet pas ça parce que les moutons font trop de dégâts sur les arbres. Donc là, on est en train de remodeler un petit peu ce verger et on met des espèces et des variétés différentes avec des arbres de auger donc qui seront plus grands. Donc ça c'est un petit peu long parce que donc on avait déjà planté mais il y avait eu pas mal de dégâts de chevreuil. Donc là on protège tous les arbres, on plante trois piquets et on met du grillage et on a mis aussi pas mal de fumier des moutons. Et également des poules parce que je lave le poulailler environ toutes les semaines, semaine et demie. Et donc j'emmène ces brouettes de fumier au pied des arbres en fait. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit au niveau des projets et des avancées de la ferme. Là, les brebis ont été échographiées début novembre. Et il y a pas mal de. Il y a beaucoup d'agneaux simples, il y a quelques doubles. Et les agnels ont été mis au bélier, pareil, mi-novembre. Donc on devrait avoir des agneaux dans 5 mois pour les agnels, et puis un peu plus tôt, normalement fin février, début mars, pour les brebis. Au niveau de l'atelier fibre laine, il s'est passé pas mal de choses et c'est une période assez intense en ce moment parce que je fais les cadeaux de Noël. Et donc j'ai démarré beaucoup beaucoup de projets, beaucoup trop certainement, tant au niveau de la couture que du tricot, que du crochet. Et je vais vous en parler un petit peu là et puis un petit peu plus dans le segment curiosité. J'ai commencé à faire des paniers de cordes ou rope ball. Si vous cherchez en anglais, il y a un petit peu plus d'informations. Alors, on va commencer par la couture parce que je me suis remis au patchwork. Ça faisait des années que j'avais pas fait de patchwork. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'adorais faire quand j'étais encore dans le Jura, enfin avant, là où on était. Et puis là, pour l'anniversaire de Helga, en fait, elle va avoir 3 ans, je lui ai fait une couverture pour ses 2 ans et je voulais lui instaurer un petit peu la tradition de lui en faire une à chaque fois. Donc la première couverture, c'était en crochet, mais là, j'ai décidé de faire quelque chose en couture. Et donc notamment j'ai décidé de lui faire un patchwork parce qu'il me restait encore pas mal de tissus de tissus de mes anciens travaux que j'avais conservé depuis pas 6 ans, 7 ans. Et donc je me suis lancée là-dedans. Donc j'avais déjà fait ça et c'est vrai que de retrouver un petit peu ces sensations, ça m'a fait plaisir. Donc j'ai fait une couverture dans les tons un petit peu bleu, orange, vert, marron, avec des chouettes, des bouts de bois, des camping-cars. Enfin, il y a des photos dans mon semainier sur le blog si vous voulez aller voir. Et ça m'a un peu remis le pied à l'étrier et j'ai voulu faire d'autres choses. Donc en fouillant dans mes caisses de tissus, bon, j'en ai pas tant que ça en fait, je dis mes caisses mais il y avait une petite caisse et un carton. J'ai retrouvé des tissus et je me suis dit ben pourquoi ne pas faire d'autres couvertures, d'autres kilts pour les cadeaux de Noël. Donc je me suis lancée et puis j'ai réaménagé mon atelier dans ce but là. En fait j'ai mis les machines à tricoter dans un autre endroit et j'ai installé un petit établi pour faire ma table de coupe là où il y a le plus de lumière dans mon atelier. Et j'ai déplacé la machine à coudre, ma Bernina, à côté de ça. Ça fait bizarre parce que j'ai réutilisé un petit peu mes outils d'avant et c'est vrai que ça m'a ramené à la période où je le fais quand on était dans la ferme dans le Jura. On était à 1200 mètres et les hivers étaient très très enneigés, donc c'était vraiment une autre saison et un autre rythme de vie. Et je me souviens que ça c'était l'activité de l'hiver. Et donc j'étais contente de reprendre mes ciseaux, mes cutters, tout ça, de découper des tissus, de les coudre ensemble. Enfin, c'était très... ça m'a replongé quelques années en arrière, disons. Et donc j'ai fini donc la couverture pour Elka, j'ai fait une petite couverture, disons pour enfants, ou en tout cas une couverture de pique-nique, pour un cadeau de Noël. Et j'ai également commencé une autre couverture dans les tons bleu, bordeaux, vert. Ça, c'était... j'avais pas de projet précis. J'avoue que je voulais l'accrocher dans mon atelier au départ. Et puis, plus j'avançais dans la couture, et plus ma petite belette me disait qu'elle voulait cette couverture. Donc, c'est sûr qu'elle ne sera pas finie pour Noël. Elle est née le 23 février, donc est-ce qu'elle sera finie pour fin février? C'est pas sûr. Il me reste encore les rangs à assembler, faire le sandwich, tout le piquet libre. C'est peu probable que j'aie le temps de la finir avant son anniversaire. Mais elle en a déjà une pour son anniversaire, mais je me disais si je peux peut-être lui en offrir une à Noël et une pour son anniversaire. Enfin, je vais voir, je sais pas encore. Donc voilà, beaucoup de temps de couture et dans la partie ensoleillée de l'atelier. Donc ça, c'est très, très agréable. Les autres projets sur lesquels je travaille, ben, y a toujours ma couverture en crochet. Je mets des photos de temps en temps également sur le blog. Donc ça va faire un an que je suis dessus parce que c'était un cadeau de ma maman de Noël dernier. Donc c'est une couverture que je fais en crochet 3 mm. Je crochète des ronds et des ronds qui font 6 rangs, enfin bref, et je leur mets une bordure grise carrée. Donc ça avance, mais il me reste encore des ronds à faire et j'ai pas mal avancé sur les ronds et donc là je me mets un petit peu à faire les bordures avec un de mes crochets préférés. Je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Tulip. Il est vraiment le manche est ergonomique et il est très doux et le crochet en lui-même est très bien fait, je trouve, parce que ça passe tout seul dans les mailles, c'est vraiment très agréable, c'est fluide. Je me suis également lancée dans le tricot de chaussettes pour ma belette parce que c'est l'hiver, il fait plus froid et c'est un petit peu la bataille pour qu'elle mette ses chaussettes. Alors je me suis dit je vais lui en faire, je vais lui en tricoter, elle va voir que j'y passe un petit peu de temps et elle va les adorer, elle les mettra tous les jours sans qu'on se batte pour qu'elle les mette. J'ai adoré les tricoter, elle ne les met pas sans qu'on se batte, le problème n'est pas réglé. Mais en tout cas, ça m'a remis le pied à l'étrier aux chaussettes tricotées à la main, et j'avoue que pour les enfants, c'est quand même très très rapide. Donc pour Elga, elle fait du combien ? Je sais pas, 22, 23 ou 24, enfin voilà, elle a un petit pied, je monte 40 mailles. Je tricote en aiguille 2,25, assez lâche, enfin pas trop serré. Moi j'ai tendance à serrer un peu pour les chaussettes, mais là je savais qu'il fallait pas que je serre trop. Et c'est le patron Highlight, je crois, de Tinkan Knits. Un patron tout simple. Je vous mettrai le lien parce que je crois que c'est un patron gratuit. Oui, il me semble, ouais. Et il est très très simple, très bien expliqué. Et il a le panneau du dessus de pied est en point mousse. Donc c'est très moelleux et puis c'est assez élastique. C'est très bien. Et il a un talon, je sais pas comment on dit en français, heel flap and turn, avec un gousset. Enfin voilà. Donc ça lui va très bien. J'avais fait la première un peu courte. Donc j'ai retricoté la pointe et je l'ai fait plus longue. Et la deuxième est 20 pecs. Donc là, il me restait de la laine de mes tricots, chaussettes, mes machines. Donc je vais en bleu notamment, rouge. Donc je vais prendre ses restes et je vais lui tricoter d'autres paires pour qu'elle ait bien chaud. Et la nouvelle découverte que j'ai fait, alors je sais pas comment, j'aimerais bien pouvoir enregistrer ou le chemin des découvertes, mais là vraiment je devais regarder quelque chose sur Instagram et j'ai vu un petit panier de cordes, donc rope ball comme je vous disais, et j'ai trouvé ça très 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 joli. Donc je me suis un petit peu renseignée et très vite vous tombez sur des tutoriels, enfin si vous tapez rope ball dans le moteur de recherche sur Pinterest ou même Instagram, vous avez très vite des très belles images et accès à des tutoriels gratuits et qui vous expliquent comment faire en fait. Et donc j'ai regardé ça et c'est vraiment très très simple. Si vous avez une machine à coudre qui peut faire le point zigzag, vous pouvez faire des paniers de cordes. Il y a également une autre technique avec un crochet, mais ça j'ai pas encore fait, c'est légèrement plus long. Et j'étais ravie parce que je voulais à Noël offrir des savons. Je sais pas si ça va se faire parce que je les vends à la boutique de la ferme et j'en ai presque plus. Donc enfin bref, je voulais faire des petits paniers en fait pour mettre des duos de savons. J'ai trouvé l'idée super. Et c'est très joli parce que c'est très graphique en fait, la texture entre la tresse de coton et puis le point zigzag. C'est très. Vraiment, c'est. J'avais jamais vu ça en fait et je suis très très contente de l'avoir découvert. Donc j'en ai fait un avec une tresse, donc c'était pas en coton, c'était ce que j'avais à l'atelier, une tresse de polyester, je pense, un truc en plastique quoi. Donc je voulais absolument tester la technique, j'ai pas pu attendre donc j'ai fait ça. Et j'ai utilisé des chutes, des petites chutes de tissu du patchwork que je suis en train de faire là, le bleu, rose et vert, pour mettre des petits accents de couleur sur la tresse. Et c'est très 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 joli. Je crois que j'ai mis des photos également sur le semainier. Je crois que j'en ai pas fait une fois fini. Enfin, il est très joli. C'était 13 mètres de fil en 8 mm. Donc 8 mm, c'est un peu gros. Moi, c'est vraiment le max que je peux passer sous mon pied de biche. Et puis pour le début, pour démarrer le panier, ça n'a pas été facile. Donc peut-être je vous recommande du 6 mm. Parce que moi, 8, c'est allé. Hein, j'ai fait le bol et ça a très bien cousu. J'ai pas cassé d'aiguille. Enfin, c'était très bien emmené par les griffes d'entraînement. Mais c'est pas facile. Je pense qu'il faut 5 ou 6, c'est pas mal. Donc j'en ai fait un pour moi pour tester, j'en ai fait un autre pour les cadeaux de Noël et il faut que j'en fasse d'autres également. Voilà, au niveau de l'atelier. Oh non, il y a autre chose. En ce moment, ça, je sais pas, c'est très. J'ai plein d'idées, je vais essayer plein de choses, pas forcément pour faire des projets finis, mais essayer des techniques, enfin voilà. Et un autre cadeau de Noël que je prévois de faire, et pense que ce sera fini, c'est de faire une housse de coussin, donc en patchwork. J'ai voulu faire des hexagones parce que, ben, je sais pas, en ce moment j'aime beaucoup cette forme. Ça me fait penser un peu aux abeilles et je trouve ça très chouette. Donc j'ai découpé des hexagones pour faire une housse de coussin et je suis en train de les coudre. Alors c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une couture partielle, je crois, ou une couture en Y. Et donc c'est un petit peu long à faire. C'est plus long que si vous assemblez des carrés ou des rectangles, des triangles, des formes traditionnelles, parce que vous devez vous arrêter, commencer pardon, et arrêter un quart d'inch. Après le début du tissu et avant la fin du tissu. Donc voilà, ça permet de faire pivoter le tissu et d'avoir un Y, une couture en Y très jolie. Donc je suis en train de faire ça dans les bleus, dans les moutardes dorées, avec des petits motifs de renard et de théière. Enfin voilà. J'ai également fait des petits hexagones au crochet. Parce que donc je vous parlais de ma couverture en rond au crochet. Il me reste, c'est des petites pelotes, c'est chips, c'est du coton et c'est des pelotes de 25 grammes. Non, pardon, c'est des pelotes de 10 grammes. Et donc après avoir fait mon rond, il me reste un petit peu de laine. Et donc j'ai essayé de faire des petites formes pour savoir ce qui me plairait à faire. Et donc je vais faire un hexagone. Donc je l'ai mis dans la photo dans le semainier, dans la semaine 49 du semainier. Des petits hexagones avec un point. Alors je sais pas comment on dit en français, mais c'est puff stitch. Et c'est un point que j'ai découvert sur un compte Instagram que je ne connaissais pas. Je crois que c'est Tipsy Epsy. Non, je dis des bêtises. Je vous mettrai le lien parce que c'est un très joli compte d'une dame qui fait des choses en crochet très jolies. Et elle avait notamment un coussin qui était super joli avec ce point puff stitch. Et j'ai voulu le refaire. Donc j'ai suivi le patron qu'elle donnait pour son Puff Stitch Granny Square. J'essaierai également de vous mettre le lien. Et j'ai trouvé ça très joli, donc j'ai voulu trouver un autre modèle d'hexagone avec ce point pour faire une autre couverture avec les restes de laine de ma couverture en coton. Voilà pour les nouvelles de l'atelier Fibrelaine. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, il y a autre chose. J'ai reçu de la laine d'une connaissance via Instagram. De la laine assez fine en fait. Et je prévois de me remettre au tissage d'ici peu pour faire des jolies écharpes fluides et toutes douces en laine. Il y a des très très jolies couleurs, faudrait que je fasse des photos pour vous montrer. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tous mes projets en cours. Il y a aussi un petit châle que je suis en train de tricoter. Il me reste juste à rabattre les mailles, donc c'est bientôt fini. Et voilà pour l'atelier. Lecture. Donc j'ai lu pas mal de livres et il y a notamment un que je voulais vous parler parce que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Le cartographe des Indes boréales de Olivier Truc. Donc je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé la couverture. C'est une ancienne carte en fait avec une barque et des pêcheurs qui essaient d'attraper une baleine. Donc j'aimais beaucoup le graphisme de la couverture, les couleurs bleues un peu, les pôles qui étaient représentés, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors je vais vous lire le résumé et je vous dirai ce que j'ai aimé ensuite. Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s'enfonce dans les eaux sombres de Maleran, Isco est témoin d'une scène étrange. Un homme est tué, une femme en fuite met au monde un enfant. Elle fait un geste, malédiction ou prémonition. Comme tous les jeunes basques, Isco rêvait de chasse à la baleine dans les eaux glacées des confins du monde sur les pas de son père, un harponneur de légende. Mais une force mystérieuse a changé le cours de son destin, le vouant au service de Dieu et du roi. Il sera espion de Richelieu. Après avoir étudié la cartographie à Lisbonne et Stockholm, Isco part explorer les Indes boréales où les Suédois espèrent trouver des mines d'argent pour financer leur guerre, tandis que des prêtres fanatiques convertissent les Lapons par la force. Tenu par un terrible chantage, Isco devra frôler 1000 morts, endurer 100 cachots pour conjurer le sort et trouver sa liberté, aux côtés des Lapons fiers et rebelles et d'une femme qui l'a toujours aimé. Un extraordinaire roman d'aventure porté par un héros courageux dans l'Europe tourmentée des guerres de religion et de l'Inquisition. On embarque sans hésiter pour le grand nord du monde. Ben voilà pourquoi ça m'a plu. Déjà parce que ça parlait d'une région que j'aime beaucoup, le Grand Nord. Et le Grand Nord plutôt suédois, voire russe. Il y avait également une histoire d'amour. Et ce métier un petit peu bizarre qui m'intrigue, moi le cartographe à cette époque, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Il y a des très belles descriptions de paysages et d'ambiance dans ce livre. Et c'est vrai que c'est un peu une ambiance froide. Donc les cartes m'ont toujours plu. Et c'est vrai que la couverture de ce livre m'a attirée par ça. Et en fait, donc ça se passe dans l'Europe de Louis XIII et Louis XIV. Et en Suède, c'est la reine Christine qui règne. Donc Isco, c'est un fils de pêcheur. Et il veut absolument devenir pêcheur de baleines. Mais la vie fait qu'il doit devenir cartographe et aussi espion pour le roi. Donc sous cette histoire-là, il y a pas mal de mystères en fait. Et c'est très très... c'est très prenant en fait ce pourquoi il est obligé de devenir cartographe, on le sait vraiment à la fin. Donc il est obligé de partir vers des cultures et des populations qu'il connaît pas, notamment les Sames de Scandinave, et il parcourt un petit peu l'Europe pour faire ses cartes, et il se retrouve souvent en prison, enfin voilà. Donc c'est un roman assez dense qui est très bien documenté au niveau historique, il y a de l'aventure, il y a de l'espionnage, il y a un petit peu aussi d'amour comme je disais, et l'histoire donc du naufrage du Vasa qui a existé, c'est assez intéressant parce qu'il il retrace un petit peu la vie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un roman historique qui est également des enjeux politiques, il y a aussi des histoires de religion, il y a aussi l'évolution de la société. Et c'est j'aime beaucoup le temps de l'Inquisition également, et j'aimerais également lire d'autres livres sur la Compagnie des Indes, sur l'hégémonie des États par la connaissance de la géographie en fait, autant terrestre que maritime. Ça c'était vraiment des enjeux très très importants. Je trouvais ça le fond de l'histoire vraiment vraiment intéressante. Puis c'est vrai que j'aime beaucoup les peuples de Laponie, et c'est des vies, des cultures qui m'intéressent, et j'ai bien aimé l'angle de l'auteur par rapport à ça. Donc c'est un petit peu triste également parce que on voit que des populations sont obligées de se convertir à des croyances, à une religion qu'ils n'ont pas forcément, et c'est ça qui fonde un petit peu leur vie. Et j'aime bien je suis pas du tout religieuse, j'ai pas vraiment eu d'éducation religieuse, mais j'aime bien l'idée que l'humanité ne sort pas grandie du dogmatisme religieux en fait. Je trouve que c'est assez révélateur de certaines choses qui se passent aujourd'hui. Donc voilà, c'est Le cartographe des Indes boréales de Olivier Truc. Curiosité. Donc comme je vous en parlais dans le segment Atelier Fibrelaine, j'ai découvert une technique, les paniers de cordes, et je me suis un petit peu renseignée sur la fabrication de paniers et un petit peu la vannerie, donc pas forcément en tresse de coton, et je voulais un petit peu vous parler de ça. Le tissage de panier, donc c'est ce qu'on appelle aussi la vannerie, c'est le processus de tissage ou de couture de matériaux souples en objets bidimensionnels ou tridimensionnels, comme des nattes par exemple pour les objets bidimensionnels et paniers pour les objets tridimensionnels. Donc les personnes qui font ces paniers sont des vanniers ou aussi des tisserands. Donc la vannerie, c'est fait à partir de matériaux fibreux et souples qui peuvent se plier et prendre une forme et la conserver. Donc pour la vannerie, on utilise de la paille de pin, on peut utiliser du saule, du chêne, du forsythia, les vignes. On peut aussi utiliser des tiges de buisson. Il y a également les poils d'animaux, donc là pour le tissage. On peut aussi également utiliser des peaux, des herbes et aussi des fils. Donc il y a beaucoup de peuples autochtones qui sont réputés pour leur technique de vannerie, et c'était souvent des paniers qui permettaient d'être échangés contre d'autres marchandises qu'ils ne pouvaient produire ou fabriquer. Donc il y a disons quatre types de vannerie qui ont été identifiées selon Catherine Erdley. Donc il y a la vannerie enroulée qui utilise des herbes, des joncs, des aiguilles de pin. Il y a la vannerie tressée, donc ça c'est pour C'est des vanneries qui utilisent des matériaux plus larges comme les paumes, les yuccas et également le lin de Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi la vannerie twinning. Ça, j'ai enfin, je sais pas comment le traduire. Et donc ça, c'est la vannerie qui utilise plutôt des matières provenant de racines ou encore des écorces des arbres. Et en fait, le retordage se réfère à une technique de tissage où il y a deux ou plusieurs éléments de tissage flexible qui se croisent à travers des rayons plus rigides. Et il y a aussi la vannerie osier ou attelle. Et donc là, on utilise des roseaux, de la canne, du saule, du chêne et du frêne. Le tissage avec un noyau en rotin, donc c'est également connu sous le nom de roseau, est l'une des techniques les plus populaires, les plus connues et les plus facilement disponibles. Donc c'est flexible quand il est tissé correctement, le rotin devient vraiment très très solide. Bien que les matériaux traditionnels comme le chêne, le saule soient difficiles à trouver, le roseau, lui, est très abondant. Il peut être coupé à n'importe quelle taille et il peut prendre n'importe quelle forme. Donc, il y a des roseaux plats qui sont utilisés, des roseaux, des saules ou de l'osier qui sont utilisés pour des paniers plutôt carrés. Il y a des osiers, des roseaux plutôt ovales qui sont utilisés pour des paniers ronds. Et il y a des roseaux ronds qui, eux, servent à ficeler, le tout. Donc, c'est un autre avantage du roseau, c'est qu'il prend, les teintures. Donc, il peut avoir plusieurs couleurs pour notamment ressembler à d'autres matériaux plus difficiles à trouver comme le chêne. Donc les paniers qui sont faits avec le roseau, ils sont souvent aussi appelés paniers en osier. Et il y a un autre type de tissage très populaire qui s'appelle le retors et qui utilise également la technique des paniers en osier. Donc avant, les paniers en osier étaient très souvent utilisés pour stocker le grain. De nombreux types de plantes peuvent être utilisées pour ces paniers, donc comme l'églantier, le chèvrefeuille, la bruyère de mûre. Toutes ces plantes et les plantes grimpantes peuvent être utilisées. Le saule est très 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 utilisé parce qu'il est flexible et il est facilement on peut facilement le trouver et aussi il est très facilement cultivé. Donc ça, c'était le saule, c'est une ressource très très importante dans la vannerie. Alors pour le processus, il y a plusieurs parties. Il y a donc le panier, il y a la base, les parois et le bord. Et il peut y avoir également un couvercle, une poignée, des anses et plusieurs ornements. Donc la plupart des paniers commencent par une base. La base peut être tissée avec du roseau ou du bois. Une base en bois peut prendre plusieurs formes pour créer une grande variété de formes de paniers. Il y a notamment les formes statiques qui sont posées en premier. Donc dans un premier rang, rond, pardon, ils sont appelés rayons. Et sous d'autres formes, ils sont appelés piquets ou portés. Et ensuite, les tisserands sont utilisés pour remplir les côtés d'un panier. Donc, il y a une grande variété de motifs qui peuvent être réalisés en changeant la taille, la couleur de l'osier et également les styles de tissage. Alors, bien que le tissage de panier soit l'un des métiers les plus répandus de l'histoire de toute la civilisation humaine, il est assez difficile de dire à quel âge il est devenu vraiment artisanal, car les matériaux naturels, ben, comme le bois, l'herbe et les animaux, se décomposent et on trouve peu de parties pour les dater. Donc, sans une bonne conservation, en fait, l'histoire de la vannerie a été perdue. Et on peut seulement faire des spéculations. Les plus anciens paniers connus trouvés ont été datés au carbone entre 10 000 ans et 12 000 ans. Donc plutôt que toutes les dates établies pour les découvertes archéologiques de poterie. Donc ça existait bien avant la découverte de poterie et ça a été découvert à Fayoum en Haute-Égypte, pardon. D'autres paniers ont été découverts au Moyen-Orient jusqu'à 7 000 ans. Donc les paniers survivent rarement et parce qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux périssable. Donc la preuve la plus courante d'une connaissance de la vannerie, c'est une empreinte du tissage sur des fragments de peau en argile formés par l'emballage d'argile sur les parois du panier et la cuisson. Pendant la révolution industrielle, les paniers étaient utilisés dans les usines pour l'emballage et pour les livraisons. Les meubles en osier sont devenus très très à la mode dans la société victorienne. Pendant les guerres mondiales, des milliers de paniers ont été utilisés pour transporter des pigeons voyageurs. Il y avait aussi des paniers d'observation pour les ballons, des paniers pour les caisses d'obus, des paniers de sacoches aéroportées utilisés pour larguer des fournitures de munitions et de nourriture. Les paniers sont toujours là aujourd'hui et il y a beaucoup d'utilisations qui en sont faites, notamment tout ce qui est les conteneurs, donc les paniers à linge. Et c'est devenu assez à la mode en ce moment, les paniers de cordes. Donc voilà pour le petit segment curiosité. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Je tiens à dire aussi que vous pouvez faire sans machine à coudre. Vous pouvez les faire au crochet. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous y trouverez des petites choses à découvrir et d'autres curiosités à aller voir. J'essaie de vous faire un article en lien avec cet épisode, avec tous les liens, les noms que j'ai cités. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via mon site avec le formulaire de contact ou sur Instagram. Mon compte c'est ma vie paysanne et créative, ou bien directement par email l'atelierfibrelaine@gmail.com. Je vous quitte et je vous souhaite une très bonne fin d'année, de belles fêtes de fin d'année, et j'espère à très vite.